sangles au long des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Tenir tête.
Resist.
Ne pas céder.
Résister.
Agir.
Widerstand leisten.
Se rebeller.
Sohan.
Dire non.
Manifester.
Combattre.
S'opposer.
Résister.
Bonjour et bienvenue sur Hirondelle FM.
La fréquence qui résiste.
La radio irrésistible. Nous sommes une équipe de 6 jeunes, de 12 à 15 ans.
Avec l'association Wakadi, nous avons réalisé une émission de radio
autour du film Sonita et du thème Résister.
Durant une semaine, nous avons créé des jingles,
des critiques de films, des micro-trottoirs,
réalisé des interviews.
Et nous avons eu la chance de rencontrer Tidiane, un jeune migrant qui nous a livré son témoignage.
Bonne écoute et laissez-vous porter dans notre résistance.
Envolez-vous!
Sonita, c'est un film qui parle d'une jeune fille qui veut accomplir son rêve d'être rappeuse. Mais sa mère veut la vendre pour que le frère de Sonita puisse à son tour s'acheter une femme. Malgré tout, Sonita va parvenir à réaliser son rêve grâce à l'aide de la réalisatrice. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est le rapport entre Sonita et sa mère. En général, on est proche des membres de sa famille. C'est pas trop le cas entre Sonita et sa mère, même s'il y a de l'affection. Il faut dire que Sonita, elle sort un peu de la norme. Toutes les filles autour d'elle vont être mariées, même si elles ne sont pas d'accord. Certaines se font frapper pour accepter. Mais elles finissent toutes par se résigner. Pas Sonita. Elle, elle chante pour résister. Je pense pas que la mère de Sonita lui veuille du mal, mais du fait de ses fils, il y a une pression. Dans ces pays, j'imagine que les hommes passent avant tout. S'il faut aider un homme ou une femme, ce sera plutôt l'homme que la femme. On a l'impression que la mère de Sonita, elle pense pas à elle, mais plutôt à l'avenir de ses fils. En même temps, on peut comprendre que sa mère ne croit pas en elle. Elle est quand même réfugiée, sans papier et sans argent, ou presque. Mais c'est quand même bizarre qu'elle ne la soutienne pas du tout. Dans leur famille, ils ne montrent pas vraiment leur amour. Moi, c'est différent. Mes mères, je les vois souvent. Enfin, je vis avec elles. Et on fait des activités ensemble. Mes mères et moi, on a une relation très proche. Elles me soutiennent, elles m'aident, et surtout, elles me montrent leur amour. Entre Sonita et sa mère, c'est pas pareil. Ça me paraît fou qu'une mère puisse vendre sa fille à un inconnu pour de l'argent. C'est une culture différente. Par contre, Sonita, elle a beaucoup de courage de résister à sa mère. Avec mes mamans, même si on n'est pas d'accord, elles me soutiennent quoi que je fasse. Le film Sonita, malgré des conditions de réalisation un peu particulières, est un film intéressant à voir et un bel exemple de résistance.
Voici maintenant un témoignage particulier de Tidiane, exilée en France, mais tout de même heureux d'avoir obtenu son asile politique.
Moi c'est Arthur, vous appelez comment du coup?
Moi je me nomme Diallo Amadou Tidiane.
Vous venez d'où?
Je suis de la nationalité guinéenne.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre venue en France?
Je suis arrivé en France le 9 septembre 2016 par voie aérienne. Donc, j'étais étudiant dans mon pays. J'avais fini ma licence en droit public. Je m'étais inscrit à un master en droit des collectivités locales. Et j'étais également activiste politique. C'est-à-dire que je militais au sein d'un parti politique de l'opposition pour défendre des valeurs, pour dénoncer la violation de la Constitution par le régime en place, dénoncer la persécution, l'insécurité, l'injustice et l'impunité qui caractérisent cette gouvernance. Et c'est dans mes activités politiques que j'ai été contraint de quitter mon pays. Donc, un de mes meilleurs amis, à qui j'ai étudié ensemble, nous avons été diplômés le même jour lors d'une manifestation qu'on avait participée le 16 août 2016. pour dénoncer la malgouvernance. À la fin de la manifestation, dans un quartier qu'on appelle Bambeto, vers les 18h, pendant qu'on rentrait à la maison, cet ami du nom de Kierno Hamidou a été tué devant moi par un capitaine de la police du nom de Capitaine Kali. J'ai hurlé parce que je lui ai vu tirer, j'ai dénoncé, j'ai crié pour attirer l'attention des passants parce que je connaissais ce capitaine qui m'avait arrêté en 2015. Donc je lui ai dénoncé. Et voilà, c'est subordonné, ils m'ont arrêté, ils m'ont embarqué dans un camion. Donc en me menaçant de mort, que cette fois-ci, ils vont finir avec moi, vos métiers, j'ai dénoncé l'air supérieur hiérarchique. Malheureusement, mon ami est décédé depuis ces jours. Donc je n'ai pas pu rentrer à la maison parce qu'ils m'ont menacé, qu'ils vont me tuer. Mon père ainsi que les responsables du parti politique auquel je militais, j'ai fait des démarches auprès de l'ambassade pour m'obtenir un visa. Et c'est dans cette circonstance que je puis quitter la Guinée et venir en France.
Tidiane n'est toujours pas rentré dans son pays d'origine et n'a de contact avec sa famille que par internet ou par téléphone.
J'étais en 5e, l'année de la résistance. L'année où j'ai été confronté à des choix. Pas si difficiles, plutôt banals. Mais ces petites choses font grandir de l'intérieur. En primaire, puis au début du collège, j'étais clairement un suiveur. Je courais partout, toujours derrière les gens. C'était une position relativement agréable. Pas besoin de résister, juste laisser passer les choses. Puis, en 5e, j'ai commencé à me comprendre. J'ai changé de monde petit à petit, grâce à ces choix que j'ai faits. Par exemple, un jour, je sortais du collège après avoir dit au revoir aux amis. Je marche dans la rue, un gars me tombe dessus. Grand, un peu imposant. Je continue mon chemin, mais il m'arrête et il gronde. Change de trottoir. Je lui fais face, j'essaye de me grandir et je dis « non ». Je résiste comme je peux. Il répète « change de trottoir ». Je répète pareil, je ne succombe pas. Change de trottoir. Une troisième fois. Pourquoi, je lui dis, mes sœurs vont arriver. J'essaye de lui expliquer que si je continue ma route sur ce trottoir, ça ne changera rien, et que ce n'est pas juste ce qu'il me demande. Il se répète une ultime fois. Je lui réponds mon éternel non. Et puis ma résistance explose. Le grand bonhomme me met une claque qui emporte ma tête dans sa main. J'ai salement mal. Je me sentais humilié. Incapable. J'ai ravalé mes sentiments et j'ai changé de trottoir, la larme à l'œil. Des fois, résister crée plus de friction et de tension qu'autre chose. Le courage demande parfois de ravaler son honneur pour qu'il y ait moins de grabuge. À mes yeux, ce n'est pas de la lâcheté. C'est plus une sorte de petite sagesse.
Celui qui accepte le mal sans lutter, coopère avec lui.
Ne vous emmerdez plus, emmerdez les autres.
Nous ne voulons pas d'un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui.
Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons.
Le patron a besoin de toi. Tu n'as pas besoin de lui.
Toujours subir, niette. Inventez-vous un corps en vie qui éprouve, qui sache rompre, accélérer, bondir.
On sait que la télévision conforme plus qu'elle n'informe.
Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu.
Lorsqu'un homme assiste sans broncher à une injustice, les étoiles déraillent. Les étoiles déraillent.
Donc on va retrouver Pierre-Louis au Jardin des Plantes.
Un personnage haut en couleur et très sociable, membre du collectif Migrant 34,
qui va nous accorder une interview sur le thème résister. Bien, bonjour Pierre-Louis.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif Migrant 34?
Oui. Ce sont des citoyens qui se sont trouvés indignés, inquiets de la façon dont les étrangers, les migrants, étaient traités, parfois souvent maltraités. Et donc ils ont décidé de se regrouper et d'agir en solidarité. Alors on a cherché des formes d'action diverses.
Qu'est-ce qui vous a motivé à participer?
Bah, moi, c'est pas une motivation, ça a toujours été toute ma vie. J'ai pas mal voyagé, j'ai vécu en Afrique, tout ça, et puis j'étais enseignant, donc ça fait partie de mes convictions. Hein.
Donc à quoi résistez-vous en faisant ça?
Alors en faisant ça, on résiste, je dirais, à un vent mauvais. Et ben, dans toutes les sociétés, il y a eu des migrations. Il est difficile de penser pouvoir fonctionner en étant pas mélangé ou en virant les gens qui sont là. Alors le comment, bon, on résiste en organisant des collectifs de soutien. Alors je vais vous parler du parrainage. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes, des hommes, des femmes, qui ont décidé de prendre à deux ou trois un jeune et puis de les accompagner, de créer une forme d'amitié avec eux. De temps en temps, se balader avec eux. Ceux qui font du foot, ben, faire du foot avec eux, les inviter à manger, discuter, apprendre à les connaître, à se connaître. Donc on résiste, on essaye de fonctionner à la fois avec le cœur, mais aussi avec notre tête.
Bah, du coup, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la police à cause de ça, de quand vous aidez
Oui, certains aident au séjour irrégulier, c'est-à-dire que des personnes qui sont sur le territoire français et qui ont reçu ce qu'on appelle une obligation à quitter le territoire, si on accorde une aide à ces personnes, on peut se retrouver dans une situation d'illégalité. Ces situations d'illégalité, pour nous, elles ne sont pas illégitimes. Hein, ça veut dire que même une loi, bon là, il faut obéir à la loi, on est citoyen, mais parfois, si on pense que la loi n'est pas juste, ben, on a une conscience, on peut enfreindre, désobéir à la loi.
Est-ce que vous avez un contact direct avec les migrants?
Oui, j'ai un contact... dire presque quotidien, où il y a des liens qui se sont créés d'amitié avec certains. Par exemple, le gars à qui j'ai apporté la guitare, il a été renvoyé en Italie, et s'il voulait, c'était être en France, rester en France. Et donc, il a repassé la frontière clandestinement, il est revenu, et puis bon, bah, quand ils sont revenus avec ses copains, moi je l'ai abrité chez moi quelques jours. Tu vois, on se retrouve dans une situation que j'évoquais tout à l'heure.
Comment on peut aider des migrants
Ben, il y a mille façons. Hein. Parfois, ça peut être déjà ne plus en avoir peur, ça peut être sourire à quelqu'un. Là, en ce moment, moi, je m'occupe de rassembler des vélos parce que certains sont dans des lieux qui sont très loin de tout magasin. Donc, pour acheter du pain, leur pain, ils sont obligés de marcher pendant 40 minutes. Tu vois, il y a vraiment mille façons d'aider. Hein. Il y a une chanson de Brassens qui s'appelle « L'étranger ». Et t'as toi cette chanson, « Toi l'étranger qui m'a souri » d'un air malheureux lorsque les gendarmes m'ont pris.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien.
Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Non, c'est moi qui vous remercie aussi.
Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year old Jordan roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah. Roll, Jordan, roll.
soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll.
Dans ma vie, il y a une chose à laquelle je ne résiste pas, c'est l'adrénaline. Par contre, j'ai une très bonne résistance à la douleur. La première fois que j'ai résisté à la douleur, je m'en souviens pas. C'était à ma naissance, j'ai été blessé à l'épaule et j'ai commencé à résister. En grandissant, ça n'a pas vraiment changé. Je suis un fan d'adrénaline et parfois, ça a engendré des chutes. La plus grave, c'est celle où je me suis heurté le crâne contre le sol. J'avais 7 ans et ça a été la plus violente douleur physique que j'ai éprouvée. Mais ça ne m'a pas découragé. Par la suite, j'ai fait un nombre incalculable de chutes au ski. J'aime beaucoup la vitesse, un peu trop même. Et il m'est arrivé de faire des acrobaties involontaires en me cassant la figure. L'une d'elles m'a obligé à porter une attelle au genou pendant plusieurs semaines. La seule fois où la peur a failli prendre le dessus, ça a été lors de mon saut en parachute. J'étais terrorisé, prêt à renoncer. Pour me calmer, l'accompagnateur m'a proposé de faire un compte à rebours de 10 à 0. Sauf qu'on a sauté à 4. C'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait et les sensations les plus fortes que j'ai jamais ressenties. Aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. Mais même si je ne m'arrête pas pour autant, il m'arrive de repenser à la douleur qu'on peut éprouver suite aux risques qu'on prend parfois.
J'ai faim, un gâteau à l'abricot. C'est irrésistible, surtout l'abricot, surtout les gâteaux.
Je connais un endroit, ça s'appelle la Cagette. C'est un supermarché qui résiste à la loi du marché. Je pense qu'ils ont des gâteaux.
Demande à Charles, il pourra t'en parler.
Bienvenue à la Cagette. Salut, je m'appelle Charles. Je suis coordinateur communication de la Cagette. C'est-à-dire que je coordonne le groupe qui s'occupe de la communication du supermarché coopératif et de notre coopérative. Voilà. Voilà, c'est un supermarché, on fait un petit tour si vous voulez. Donc vous voyez, on a par exemple des produits en vrac. On propose éventuellement pour les produits en vrac des sachets réutilisables qui sont faits par une petite entreprise locale aussi qui utilise des tissus recyclés et bio, c'est-à-dire non traités quoi, pour l'alimentation. On essaie d'avoir de tout à la Cagette. Donc ici on a boissons, des épiceries salées, ici épiceries sucrées. Produits de beauté, d'entretien. Alors on a des produits d'entretien qui sont le plus respectueux possible de l'environnement. Et on trouve donc plein de produits qui ne sont pas les marques que vous avez peut-être l'habitude de voir en grande surface. Et on s'aperçoit quand on les utilise qu'en fait, non seulement ils sont plus respectueux, mais ils fonctionnent mieux.
Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Alors, la Cagette est un supermarché coopératif et participatif à but non lucratif. Il n'y a pas d'investisseur qui touche de bénéfices personnels sur les gains de l'entreprise. Nous sommes une alternative à la grande distribution, c'est-à-dire que nous sommes une coopérative de consommateurs qui reprenons en main l'outil de distribution alimentaire.
Comment fonctionne la Cagette ?
C'est assez simple. En fait, chaque coopérateur ou coopératrice achète des parts de l'entreprise, une dizaine de parts de l'entreprise, investit donc 100 euros dans l'entreprise et devient copropriétaire de la Cagette. Et chacun donne 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour le fonctionnement du magasin. Il y a plein de groupes de travail dans la Cagette puisqu'il y a énormément de choses à faire. Il y a de la comptabilité, de la gestion, il y a des commandes, il y a des réceptions de commandes, il y a tout à faire. Donc il y a des groupes de travail pour tous les postes et vient participer à ces groupes de travail qui veut y participer.
Quels sont les objectifs de la Cagette ?
C'est la transparence. La transparence sur la filière alimentaire, c'est-à-dire de savoir combien ça coûte, à qui va l'argent, qu'est-ce qu'il y a dans les produits. C'est de créer du lien social dans le quartier, parce que c'est un projet local où tout le monde se retrouve pour faire quelque chose ensemble. On est ici tous solidaires, il n'y a pas de hiérarchie à la Cagette, donc on est tous sur le même plan et on est tous motivés par la volonté de faire quelque chose tous ensemble. C'est vraiment ça qui nous rassemble avant tout.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet ?
Ce que j'ai moi le plus aimé dans ce projet, je pense que c'est le rapport humain. Quoi. Ici, j'ai rencontré, on est 1119, je ne connais pas tout le monde parce qu'on commence à être tellement nombreux, mais j'ai rencontré 500-600 personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. J'ai appris énormément de choses, j'ai échangé avec énormément de gens et ça c'est inestimable.
En participant à ce projet, est-ce que vous avez l'impression de résister ?
Clairement oui, enfin, c'est un projet qui est, à mon sens, éminemment politique. C'est prouver, c'est faire la preuve concrètement par l'action, de l'autogestion, et que d'autres moyens de fonctionnement, de prise de décision sont possibles. Au quotidien, on montre qu'on peut faire autrement que ce dont on a l'habitude dans l'économie libérale traditionnelle.
Il y a combien de cagettes en France ?
Il y a une seule cagette, parce que le principe, c'est que nous sommes tous des initiatives locales. Par contre, il y a plein de projets qui sont sur le même modèle, avec des petites différences. Et on en a recensé une petite cinquantaine entre la France et France-Belgique-Suisse. Alors, il y a la Louve à Paris qui a importé le projet des États-Unis. Puisqu'à l'origine, le modèle est un modèle qui existe à New York depuis 1974-75, qui s'appelle Park Slope Food Coop, qui est une grosse coopérative donc, de consommateurs, qui compte pas loin de 16 000 membres, je crois, à l'heure actuelle. À Paris, ils sont près de 5 000, il me semble. Il y a la Chouette à Toulouse, il y en a un peu partout qui se montent. Alors il y en a qui se montent à 7, d'autres à Marseille. Et on organise, nous, cette année à la Cagette, là, pendant les vacances de Pâques, l'intercoopérative. C'est-à-dire qu'on a invité des membres de toutes les autres coopératives pour qu'on discute ensemble justement de nos projets respectifs et de ce qu'on peut faire en commun. Voilà.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans les locaux ?
Alors ici, dans ce supermarché, on a ouvert le 6 septembre.
Et avant, vous étiez où ?
Avant, on était donc sous forme associative dans un petit local qui est à 200 mètres d'ici, dans lequel on avait environ 300 références produits, et on était très très à l'étroit. Très vite, on a été très à l'étroit dans cette épicerie. Et quand l'occasion de reprendre ce supermarché s'est présentée, c'était un peu tôt parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça aussitôt, mais on s'est tous mis sur le chantier de voir si on pouvait le faire. Et puis en fait, en s'y mettant tous ensemble, ça a été vite et ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, puisque là on a ouvert et que voilà, ça tourne. On n'est pas encore à l'étroit, mais...
Il va falloir acheter quelque chose de plus grand.
Je sais pas, on verra ce que l'avenir nous réserve.
Mode d'emploi de résistance pour les nuls. Étape 1.
Savoir dire non.
Étape 2.
Ne pas abandonner.
Étape 3.
Voir étape 2.
Étape 4.
Résister.
Étape 5.
Résister.
Étape 6.
Résister.
Étape 7.
Résister.
Étape 8.
Résister.
Étape 9.
Résister.
Étape 10.
Voir l'étape 1 et 2.
Étape 18.
Appliquez les consignes.
Mami, voilà, je vous donne couvert. La tombe, c'est la voilà.
Sonita est dans un documentaire sorti en octobre 2016. Ce n'est pas vraiment le type de film que je vais voir le plus souvent au cinéma. Mais ce film donne une envie de débattre, même s'il ne m'a personnellement pas touché ou emballé profondément. La réalisatrice est iranienne. Elle s'appelle, désolé si j'écorche son nom, Rokhzareh Ghaem Maghami. Elle a une place très importante dans le film. Et dépasse son rôle de réalisatrice en intervenant dans la vie de Sonita. Elle devient actrice dans son propre film. Alors réalisatrice ou actrice, je vous laisse vous faire votre avis. L'héroïne et l'actrice principale restent malgré tout Sonita Alizadeh, une jeune fille afghane de 17 ans qui vit en Iran avec sa sœur et sa nièce. C'est une artiste dans l'âme, elle chante des textes forts et engagés sur son quotidien et sur ce qui lui paraît inadmissible. Si vous vous attendez à voir un film standardisé à la mode hollywoodienne, je vous arrête tout de suite, Sonita n'est pas fait pour vous. Filmé avec une petite caméra qui ne stabilise pas l'image et laisse apercevoir par moments la perche du micro. Tout est tourné en temps réel, au jour le jour. Rien n'est préparé ou planifié. C'est un film à l'aspect brut, choix artistique de la réalisatrice. C'est ce qui fait son originalité et pour certains, son charme. Après, c'est aussi une contrainte, puisque la plupart des scènes n'ont pas pu être tournées une seconde fois, ce qui empêche finalement le côté formaté du film. Et pour l'histoire du film, elle est pleine de rebondissements. Rokhzareh avait à la base l'idée et l'envie de faire un film sur les rêves des jeunes et particulièrement en Iran. C'est comme ça qu'elle a commencé à filmer Sonita et qu'elle a décidé d'en faire son personnage principal. Mais la difficulté des documentaires, c'est que l'on est à la merci des personnages. À un moment, Sonita disparaît. Et la réalisatrice n'était même pas sûre de terminer son film. Elle le dit d'ailleurs quand elle cherche Sonita à travers les rues de son quartier. « J'ai trouvé ça un peu déplacé qu'elle s'inquiète en premier pour son documentaire et non pour la santé de Sonita. Le film mérite d'être vu pour l'histoire qu'il apporte, le témoignage que nous offre Sonita. Et surtout pour ce voyage à travers le monde et les cultures. De la pauvreté en Iran jusqu'à l'épanouissement de Sonita aux États-Unis, en passant par l'Afghanistan et son état de guerre permanent. Allez voir ce film entre amis, il vous procurera quelques bons débats.
I'm a rapper.
I'm a rapper.
I'm a rapper.
Flash Info spécial.
Tout de suite, on reprend le direct avec notre envoyé spécial sur le terrain.
Bonjour Sonita, vous êtes une rappeuse afghane de 22 ans qui vit maintenant aux États-Unis, dans le Colorado. Comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien. Je suis très contente d'être ici avec vous.
Sonita, comment ça s'est passé depuis la sortie du film ?
Alors il y a eu un grand mouvement de jeunes filles dans le monde. Elles postaient des photos d'elles sur les réseaux sociaux, avec des codes-barres sur le visage. Une résistance s'est organisée par rapport à la vente des femmes et du mariage forcé. De plus en plus de femmes se sont rebellées, elles ont résisté. Grâce à cette résistance, les gouvernements afghans et iraniens ont totalement interdit les mariages forcés, même si des familles perpétuent encore la tradition.
Comment avez-vous vécu le tournage du documentaire ?
Au début, c'était difficile, c'était un peu stressant. Je savais pas comment ça allait se passer. Et je me suis habituée à la présence de la caméra. Au fur et à mesure, le stress est parti et c'est devenu plus naturel.
Avez-vous sorti un album ?
Oui, j'ai enregistré mon premier album. Il parle de toutes les maltraitances que subissent les femmes en Iran et en Afghanistan. L'album a eu tellement de succès que beaucoup de jeunes filles se filment en chantant mes paroles. Ça fait évoluer les nouvelles générations.
Avez-vous des nouvelles de votre famille ?
J'ai reçu une lettre d'eux il n'y a pas longtemps. Les plus jeunes sont fiers de moi.
Est-ce que votre mère vous a pardonné ?
Je suis partie sans lui dire au revoir. J'aurais aimé que ça se passe autrement. C'est encore difficile, mais j'ai de ses nouvelles par mes frères et sœurs. Pour ma mère, il n'y avait pas d'autre façon de voir les choses. Cette tradition s'était ancrée en elle. Elle a fini par réaliser qu'il y avait d'autres possibilités.
Merci Sonita d'avoir pris du temps pour notre interview. On attend impatiemment votre deuxième album.
C'est quoi pour vous résister ?
Moi, résister, c'est à dire aller contre quelque chose.
Ben comme moi, je suis malade, donc je résiste au quotidien.
Résister, c'est de la patience.
Résister, c'est je sais pas comment te dire. C'est contre quelque chose qu'on t'impose, tu résistes.
C'est ne pas accepter l'inacceptable.
Montrer qu'on a du caractère. Quand on veut pas quelque chose, on résiste.
Je dirais que résister, c'est surtout avant tout résister contre soi-même.
Donc est-ce que vous avez déjà résisté ?
Résister à quelque chose, mon cher, à beaucoup de choses. Hein. Si quelqu'un s'approche de moi, je lui donne un coup.
Les malheurs qu'on a, les suicides, voilà, on y résiste à tout ça.
J'ai résisté, je continue à résister. Il le faut, parce que c'est la vie et elle est dure. Je l'espère que ce soit moins dur pour vous, mais il faut avoir toujours cette patience de résister.
L'art existe depuis toujours. Il sert à s'exprimer, à libérer des sentiments, mais aussi à résister. J'aimerais vous parler du XXe siècle, quand le théâtre essaye de dénoncer et de stopper les guerres, l'art de résister. Brecht est un jeune Allemand qui sort traumatisé de la Première Guerre mondiale. Il veut expliquer au peuple que la guerre est inutile, qu'elle amène juste au massacre. Pour faire passer son message, il utilise le théâtre. Avec ses pièces, Brecht fait réfléchir le spectateur. Il le fait intervenir, le spectateur se remet en question. C'est une forme de résistance grâce au théâtre, donc à l'art. Brecht éduque toute une population. Il arrive à les faire changer d'avis, les fait résister à la facilité de la violence. Le deuxième personnage important qui résiste avec le théâtre, selon moi, c'est Ionesco. après la Deuxième Guerre mondiale, Ionesco décide de résister à son tour. Touché par la déshumanisation de cette guerre, Ionesco choisit d'utiliser le rire comme arme. Il écrit des pièces de théâtre qui n'ont aucun sens, des histoires absurdes comme la cantatrice chauve. Brecht, Ionesco, Sonita et tant d'autres montrent que l'art est une forme de résistance qui peut toucher tous les publics. Créer, c'est résister.
Ma sœur a survécu à un cancer. De 5 à 14 ans, elle s'est beaucoup battue. Maintenant, elle est championne de France de natation. Elle nage avec deux bras et une jambe, parce que l'autre, elle ne peut pas s'en servir. Elle vise les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et je pense qu'elle peut y arriver. Ce qui m'a le plus marqué, c'était sa chimio. La voir si faible, ça fait un choc. C'était douloureux d'être séparée de ma sœur et de mes parents. Comme ma sœur était encore petite, il devait rester avec elle. Et moi, je restais chez moi, avec ma nounou, ou chez des amis de mes parents. Sauf que moi, je voulais juste les voir. En plus, je savais qu'à chaque opération, elle pouvait mourir. Donc oui, j'ai dû résister à la peur, à l'angoisse et à l'éloignement de ma famille. Mais maintenant, elle est guérie. On est réunis. Certes, on se chamaille. Mais je préfère l'avoir m'engueuler quand j'ai fait une bêtise que dans un hôpital allongé sur un lit avec une perfusion. Quand on est enfant, on ne réalise pas forcément la situation. En grandissant, on peut mieux comprendre sa gravité et l'assumer. Aujourd'hui, je me dis que ça va mieux, mais qu'il faut être fort mentalement et physiquement pour résister à ce genre de situation. À force de lutter et persister, on arrive à un résultat positif.
Merci beaucoup pour votre écoute.
On espère que ça vous a plu.
Dans notre équipe de réalisation, il y avait...
Moi.
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 Et il y a moi aussi.
Pour être plus sérieux, il y avait...
Meigli.
Arthur.
Lou.
Lino.
Lucien.
Et Nicolas.
Merci à Charles Gaudron et l'équipe de La Cagette.
Merci à Pierre-Louis du collectif Migrants 34.
Et Tidiane pour leur témoignage de résistants.
Et nous remercions Colline et Élise de Wakadi pour ce stage radio.
Claire, du cinéma Nestor Burma.
Et Raphaël, de l'association Troisième Œil.
Si notre émission vous a plu, vous pouvez la retrouver sur le site de Wakadi. Wakadi, ça veut dire...
On a quelque chose à dire.